Vous écoutez, on lit pour vous.
Des travailleurs de partout pour fabriquer des boîtes de sirop d'érable d'ici. Un texte de Sarah R. Champagne paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir. Il se présente à nous en enlevant ses bouchons, son filet à cheveux et ses bretelles de sécurité couleur fluo. Éric Vachon a beau être président d'Ideal Can, c'est sur le plancher de l'usine qu'on le trouve. Seul fabricant de boîtes de conserve au Canada, son entreprise a ramé à contre-courant de la délocalisation. On voyait que les usines fermaient en Beauce et s'en allaient vers l'Asie. Nous, on a fait le contraire. On a pris une production qui se faisait en Asie et on l'a ramenée ici, au Québec. On est vraiment fiers de ça, expose-t-il. Ideal Can est aussi la seule usine à fabriquer localement les emblématiques contenants de sirop d'érable, ceux notamment utilisés par les grandes chaînes d'épicerie pour vendre le précieux liquide doré. Et pour parvenir à rapatrier ce type de production ici, la famille Vachon a misé sur les compétences de travailleurs étrangers qualifiés. Argentine, Chili, Italie, Algérie, Chine, Nigeria et depuis peu Indonésie. Les drapeaux de 7 pays flottent au-dessus de la salle des machines. Avec 3 lignes de production, l'entreprise maintenant installée à Saint-Apollinaire sur la rive sud dans la région du Québec produit environ 2200 conserves à la minute. Si vous faites le calcul, ça fait 1 million de cannes par quart de travail. C'est grosso modo 20 camions de 53 pieds par jour, se targue M. Vachon. Derrière les portes de l'usine, au tout début du processus, des feuilles de métal sont taillées, enroulées et scellées. Puis, les rutilants cylindres courent à toute allure sur un étourdissant tapis roulant qui monte et descend. Ils sont ensuite empilés mécaniquement par centaines, formant des murs infranchissables dans l'entrepôt. Environ 4,5 millions de contenants métalliques au motif d'une régularité irréprochable. Vois-tu ce qu'on fait? Des cannes, dit en riant Éric Vachon aux côtés de ses colonnes. Une expertise bienvenue. Le grand patron s'avance bientôt vers la plus vieille des 3 lignes de production et s'approche de Chang Li Li, une femme d'origine chinoise arrivée au tout début de l'aventure en 2019 pour inaugurer la production. Elle a marié un Québécois et elle a son passeport canadien maintenant, dit-il par-dessus le bruit ambiant. Il parle pour elle, car elle vit avec une surdité sévère, mais n'a aucun mal à opérer, avec une grande rigueur, observe-t-il. Avec l'expansion des affaires, le patron, maintenant aidé par son fils Jean-Sébastien, a aussi recruté un peu partout où les mêmes lignes de production sont utilisées. L'idée est que ces travailleurs sont déjà formés sur ces mêmes machines qu'ils utilisent et ils nous forment à leur tour, explique-t-il. Cela correspond tout à fait aux objectifs de Hernan Assal-Gado, qui compte rester au Québec 3 ou 4 années encore, le temps de prendre sa retraite après 3 décennies comme ingénieur dans la fabrication d'emballages. « Mon objectif est clair, dit-il, les bouchons encore bien enfoncés dans les oreilles. Je vais former une usine qui fonctionne bien et partir ensuite. » Un peu plus loin, son compatriote chilien Carlos Rivera a lui aussi 28 ans d'expérience derrière le sarrau. « Je suis parti de l'extrême sud à l'extrême nord », résume-t-il. De son côté, il aimerait bien s'installer à plus long terme au pays et donner l'occasion à son fils adolescent resté au pays d'éventuellement trouver du travail ici. « Personne ici n'est payé à bas salaire, selon les catégories du gouvernement », soutient Éric Vachon. « On n'a jamais pensé à engager quelqu'un pour sauver des coûts. On engage des gens pour leur savoir-faire et leurs connaissances. Il est conscient des débats croissants sur la main-d'œuvre temporaire. Ce qu'on a ici, c'est une histoire de réussite et ils en font partie », avait-il dit d'emblée au téléphone la première fois que Le Devoir l'a contacté. À l'envers. Originaire de la Beauce, l'homme d'affaires à l'ADN qui fait la renommée des entrepreneurs de la région. Il a quitté l'école tôt, loin de décrocher son diplôme secondaire malgré plusieurs proches qui enseignaient. Il a été importateur depuis la Chine pendant 18 ans, a visité une soixantaine de pays pour en ramener le meilleur et a finalement conclu que c'était ici, à Saint-Apollinaire, qu'il fallait produire des millions de boîtes de conserve. Les conserves de sirop d'érable ont beau être un produit hautement symbolique, personne n'avait entrepris d'en rapatrier la fabrication. Il reste aujourd'hui sur le marché québécois environ le tiers des cannes faites en Chine, principalement les récipients vendus par d'autres entreprises pour la mise en conserve à petite échelle. Elles n'ont pas les mêmes certifications, tient à préciser Éric Vachon. Quand son fils, Jean-Sébastien, a commencé à travailler dans l'entreprise en terminant ses études universitaires, il a compris que le transport des conserves faisait gonfler le coût de revient. « On transporte des conteneurs d'air », avait-il fait remarquer. C'est aussi une question de qualité pour les deux cofondateurs d'Idéal Cannes. Ici au Québec, on a des normes assez strictes dans le domaine agroalimentaire. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur des boîtes qui entre en contact avec les aliments, expose M. Vachon, car la conserve est aussi souvent un chaudron, ajoute-t-il. Il y a donc un contrôle de qualité très étroit afin de s'assurer de l'absence de mercure, de plomb et de biphénol A. Et le chef de la réglementation et de la conformité, Hakim Zahar, est lui aussi issu de l'immigration. Médecin diplômé en Algérie, il a plutôt travaillé dans une compagnie pharmaceutique à son arrivée à cause de ses difficultés à faire reconnaître ses études. Aujourd'hui, M. Zahar est en quelque sorte la tour de contrôle de l'usine et indique les modifications à faire. Dans son petit bureau laboratoire, il teste aussi les conserves pour s'assurer qu'elles résistent à une pression allant jusqu'à 500 kg. Aussitôt sa démonstration terminée pour les visiteurs, il repart sur sa trottinette électrique pour parler à un collègue à l'autre bout de la fabrique. « Moi, je suis fier de travailler avec ces gens-là qui sont hautement qualifiés. On se trouve chanceux, » dit en souriant M. Vachon, en le regardant repartir. C'était « Des travailleurs de partout pour fabriquer les boîtes de sirop d'érable d'ici », un texte de Sarah R. Champagne paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir.
Des œuvres d'art inuites pour agrémenter l'hôpital de Koudjouak. Un texte de Félix Lebel paru le 21 septembre 2024 sur Ici Grand Nord. Le centre de santé Tulatavik de Lungava à Koudjouak a reçu une trentaine d'œuvres d'art, majoritairement inuites, pour rendre plus agréable le séjour des patients de passage dans l'unité d'hébergement temporaire. Les œuvres ont été données par la Fondation de l'art pour la guérison, qui a recueilli les tableaux auprès de donateurs privés. La grande majorité des quelques 30 œuvres sont par ailleurs des lithographies d'artistes inuits du Nunavik et du Nunavut, tels que Tivi Etouk et Tommy Evik. Les instigateurs du projet souhaitent ainsi faire rayonner l'art traditionnel régional tout en faisant redécouvrir des artistes inuits à la population. Toutefois, c'est surtout pour améliorer l'ambiance dans les centres de santé que la Fondation a effectué ses dons. Selon Earl Pinchuk, fondateur de l'organisme, l'art permet aussi de guérir. Citation. Des études ont démontré qu'il y a moins d'angoisse lorsqu'il y a de l'art. Si vous venez dans un hôpital comme patient ou visiteur, vous verrez que l'atmosphère est plus intéressante et c'est très important. On oublie que l'atmosphère a un impact aussi sur le corps, explique Earl Pinchuk. Séjourner dans cette section de l'hôpital est un passage obligé pour les résidents des autres communautés en attente de retourner chez eux ou de se rendre à un rendez-vous médical à Montréal. Les nouvelles couleurs sur les murs semblent en effet égayer le séjour des résidents. Une patiente du village de Kanjiksualujuak, rencontrée sur place, a souligné que les œuvres ont changé l'ambiance dans les corridors, auparavant froides, de l'unité d'hébergement. un sentiment que partage l'administration de l'hôpital. Citation : On est extrêmement heureux de ces dons. On peut maintenant réaliser de beaux milieux de vie dans lesquels les gens se sentent bien. Fin de citation, a déclaré la conseillère cadre en affaires publiques au Centre de santé Tulatavik de Lungava, Nathalie Poirier. Citation : Quand on a installé les œuvres hier, les gens nous arrêtaient et nous disaient : On aime ça, on aime les couleurs, on se sent bien. Fin de citation, ajoute-t-elle. Réconciliation. Depuis 22 ans, la Fondation de l'Art pour la guérison a ainsi remis près de 14 500 œuvres partout au Canada, en France et en Angleterre. Depuis les 5 dernières années, la Fondation souhaite toutefois se concentrer sur des projets en milieu autochtone dans une démarche de réconciliation. Citation : Je pense que les Canadiens ne sont pas assez au courant de l'ampleur de ce qui est arrivé dans le passé. Ellipse : On s'est dit, nous, on fait de l'art, alors pourquoi ne pas organiser quelque chose auprès des Autochtones qui pourrait être utile ? Fin de citation, explique Earl Pinchuk. Ce don à l'hôpital de Coudjouac est le deuxième de l'organisme en milieu autochtone au Québec. Le premier a été fait en 2023 au CLSC du village nordique d'Opalouk, aussi au Nunavik. Face au succès de cette démarche, Earl Pinchuk s'est dit ouvert à organiser d'autres dons du genre dans les différents CLSC de la région. C'était « Des œuvres d'art inuites pour agrémenter l'hôpital de Coudjouac », un texte de Félix Lebel, paru le 21 septembre 2024 sur Ici Grand Nord.
Des erreurs irréparables, un texte d'Isabelle Haché, paru le 10 octobre 2024 dans la presse. Il y a eu la fillette de Grimbé, maintenue dans un foyer malsain, insalubre et violent, au nom des liens quasi sacrés du sang. Elle en est morte. Nous nous sommes dit, plus jamais. La DPJ doit impérativement changer ses façons de faire. Sommes-nous allés trop loin? C'est la question que je me suis posée en lisant l'enquête choc de mes collègues Caroline Touzin et Gabrielle Duchesne. Leurs révélations sont consternantes. Ces dernières années, au Québec, des enfants ont été arrachés à leurs parents, sans raison valable, pour être placés au plus vite dans des familles d'accueil, en vue de leur adoption. Des intervenantes ont déposé de fausses informations au tribunal en toute connaissance de cause. Elles ont soumis des rapports défavorables, qu'elles savaient trompeurs, à des juges qui avaient la lourde tâche de décider si des enfants devaient être enlevés à leurs parents pour toujours. Dans plusieurs dossiers, des informations sont omises, manipulées et ou inventées afin de prendre les parents en défaut, lit-on dans le document produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, CDPDJ. Intolérable, a réagi le ministre Lionel Carman, annonçant aussitôt la mise sous tutelle de la Direction de la protection de la jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec. Le ministre a tenu à préciser aux parents que les dossiers sont en train d'être révisés par des intervenants de la DPJ pour s'assurer que les bons choix ont été faits. Après, que se passera-t-il? Je veux dire, si on se rend compte que de mauvais choix ont été faits. Excusez-nous, madame, il y a 2 ans, la DPJ vous a enlevé votre fille parce que, dans son rapport d'évaluation, l'intervenante avait noté que vous ne collaboriez pas. C'était faux. Vraiment désolé, nous nous sommes trompés. Alors revoilà votre enfant. Ça n'a tout simplement pas de sens. Il y a des erreurs qui ne peuvent pas être réparées. Il faut espérer que les abus relevés par l'enquêtrice de la CDPDJ soient circonscrits à une seule région où le chaos semble régner depuis déjà plusieurs années. Toutefois, un homme m'a raconté avoir vécu la pire épreuve de sa vie auprès des intervenants de la DPJ de Montréal. L'expérience l'a complètement bouleversé et le hante encore aujourd'hui. Le 1er août 2023, Bruno, prénom fictif, a voulu accueillir sous son toit la fille de son cousin toxicomane. Quelques jours plus tôt, la DPJ avait placé l'enfant de 5 mois dans une famille d'accueil en vue d'une éventuelle adoption. Il fallait donc prendre une décision rapidement afin d'éviter que des liens d'attachement ne se créent. Ce n'est pourtant qu'un mois plus tard, en septembre, que Bruno et son conjoint, déjà père d'un petit garçon, ont obtenu un rendez-vous avec une intervenante de la DPJ. Cette dernière leur a expliqué qu'il devait être évalué par une travailleuse sociale. L'évaluation a eu lieu 4 mois plus tard, en janvier 2024. Le temps pressait de plus en plus. Bruno appelait et rappelait la DPJ sans relâche. Personne ne répondait à ses messages. Le 7 mars 2024, la DPJ a enfin annoncé une bonne nouvelle au couple. Ils nous ont convoqués, 8 mois après mon premier appel, pour nous dire qu'ils allaient nous confier la petite, raconte Bruno. Dans une semaine, elle serait chez nous. La DPJ soulignait à ce moment-là l'opportunité pour l'enfant d'être maintenu dans sa famille biologique et de pouvoir ainsi rester proche de ses racines, selon un jugement de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec que j'ai pu consulter. Bruno et son conjoint se sont dépêchés d'aménager la chambre du bébé. Ils ont acheté des meubles, des vêtements, tout le nécessaire. Ils ont préparé leur fils à l'arrivée imminente de l'enfant. Mais il y a eu d'autres délais. D'autres appels anxieux laissés sans réponse. Et le scénario d'horreur que redoutait Bruno depuis le début a fini par se concrétiser. En juin 2024, la DPJ a changé d'avis. Après avoir constaté que les liens d'attachement entre l'enfant et la famille d'accueil s'étaient consolidés. À la réflexion, il valait mieux laisser la petite où elle était. Le 19 août 2024, une juge a donné raison à la DPJ. En avril 2019, la mort atroce de la fillette de Granby a mené à une grande remise en question de nos pratiques en matière de protection de l'enfance. Le mot d'ordre désormais, c'est que la DPJ ne doit plus jamais hésiter à couper les liens biologiques. La loi sur la protection de la jeunesse a été modifiée en ce sens en avril 2022. Ces modifications ont réitéré avec plus d'insistance le principe cardinal de la primauté de l'intérêt de l'enfant, rappelle la juge, dans sa décision du 19 août. Elle n'avait pas à décider si la DPJ avait commis des erreurs cliniques ou administratives, ni si les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux avaient été respectées ou non. Tout ce dont elle devait juger, c'était de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et celui de cette fillette, après toute une année en famille d'accueil, c'était d'y rester, peu importe ses liens biologiques avec Bruno. Peu importe également si la DPJ de Montréal était l'unique responsable des longs délais ayant mené à ce dénouement absurde. Pour Bruno et son conjoint, il était trop tard. L'intérêt de l'enfant primait sur tout le reste. Il y a des erreurs que personne, même un tribunal, ne peut réparer. C'était « Des erreurs irréparables », un texte d'Isabelle Haché, paru le 10 octobre 2024 dans la presse.
Un avant-goût de la sélection 2024 d'Imagination. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 29 septembre 2024 dans le magazine Fugue. À moins de 2 mois du festival Imagination, l'équipe de programmation a dévoilé pour Fugue les titres d'une dizaine de longs-métrages de fiction et documentaires qui seront présentés lors du 37e Festival de films LGBTQ de Montréal, qui se tiendra du 20 au 30 novembre 2024. Survol en quelques films d'une édition qui promet de belles choses. Mascarpone, The Rainbow Cake. Il y a 3 ans, la comédie romantique Mascarpone d'Alessandro Guida et Matteo Pilati a remporté l'adhésion instantanée dans les festivals queer, dont Imagination, avant de devenir un succès sur Prime Video. Dans la suite, Mascarpone, The Rainbow Cake, qui se déroule 3 ans plus tard, Antonio et Luca se revoient pour la première fois après la mort de Dennis. Alors qu'Antonio est devenu un célèbre pâtissier, Luca a trouvé du réconfort auprès de Tancredi, dont il est amoureux. Mais une relation fusionnelle subsiste tout de même entre eux. Desire Lines. Faisant vigoureusement fi de la binarité des choses, Desire Lines de Jules Roscomb est un long métrage hybride mélangeant fiction et documentaire. C'est d'abord un collage d'entretiens donnant la parole à ceux que l'on entend très rarement. Qu'ils aient développé une homosexualité surprise à la suite de leur transition, ou bien qu'ils aient conservé leur attirance pour les hommes, ces mecs-là ne se font pas prier pour aborder la question du sexe sous plusieurs angles. Cela va du plus direct, comme l'expérimentation d'une sexualité d'actif, au plus sérieux, le rapport complexe à la PrEP et au VIH. Cette parole libérée apporte, à cette mosaïque de fraternité trans, un grand dynamisme et un air de jamais vu. Duino. Premier long-métrage de Juan Pablo Di Pace et d'Andrés Pepe Estrada, Duino suit Mathias, un cinéaste argentin d'une 40aine d'années qui a du mal à terminer un film inspiré par le souvenir d'Alexander, son premier amour, rencontré dans une école internationale dans les années 90. La tendresse et la fascination définissaient leur forte amitié, jusqu'à ce qu'Alexandre soit expulsé de l'école, laissant le jeune Mathias avec une histoire non résolue et de multiples émotions non déclarées. 25 ans plus tard, Mathias décide de rouvrir la boîte de Pandore en se retrouvant face à Alexandre. Tour de force visuelle et émotionnelle, ce film célèbre l'amitié, l'amour et la nature sensible et impressionnable du fait de grandir et de vieillir. Langue étrangère. Pour son 2e long-métrage en solo, Claire Burger réalise avec Langue étrangère un récit d'apprentissage sensible autour de 2 adolescentes, l'une française, l'autre allemande, en pleine construction, et double le portrait de cette jeunesse engagée et anxieuse d'une réflexion passionnante sur le langage et l'inconnu. A Mother Apart. Bouleversante histoire de guérison et de pardon. A Mother Apart, une mère à part, accompagne la poète et militante LGBTQ+, américano-jamaïcaine Stacy Ann Chin, laquelle, elle-même abandonnée par sa mère, repense l'art essentiel du maternage. Sébastien. Mikko Makala, dont le film A Moment in the Reeds, Entre les roseaux, a débuté remarquablement la carrière en 2017, revient cette fois avec Sébastien. Un aspirant écrivain, Max, mène une double vie comme travailleur du sexe, sous le nom de Sébastien, dans l'optique de se nourrir de ses expériences pour l'écriture de son roman. Mais tandis que Max tente d'explorer l'émotionnel aussi bien que le charnel, les éditeurs font pression pour qu'ils produisent du contenu titillant et sulfureux. Any Other Way, The Jackie Chan Story. Pour sa part, Any Other Way, The Jackie Chan Story, nous fait redécouvrir la chanteuse de soul trans Jackie Chan, qui a su trouver sa voix et faire résonner son talent brut et authentique. Après des décennies d'oubli, cette icône oubliée retrouve tout son éclat dans ce remarquable portrait qui la classe au panthéon des plus grandes interprètes de soul du XXe siècle. We Forgot to Break Up. Adapté du roman Heidegger's Farewell de Kate Burgess, le film We Forgot to Break Up est centré sur The New Normals, un groupe de rock indépendant d'une petite ville dirigée par le chanteur trans Evan, Lane Weber, qui déménage à Toronto à la recherche de la célébrité. Gondola. Dans le ciel d'une vallée égarée de Géorgie, hors du temps, flottent 2 cabines de téléphériques qui se croisent invariablement à mi-chemin de leurs parcours respectifs. Gondola fait de cette interaction aussi fugace que régulière le cœur d'une intrigue romantique. Lorsqu'Iva, fraîchement engagée comme conductrice de l'une des cabines, fait la rencontre de sa collègue Nino, un jeu de séduction s'engage, entre signes échangés d'une cabine à l'autre. Cette peinture de Veit Elmer d'une relation naissante, couplée à la grande spécificité formelle du film, accouche de vignettes de bonheur et de fête. Perfect Ending. Comme la fin parfaite d'un grand film, c'est ainsi que le cinéaste Joao décrit la fin de sa relation de 10 ans avec Hugo dans le long-métrage Perfect Ending de Daniel Ribeiro. Malgré leur rupture, ils sont restés meilleurs amis. Cependant, le retour sur la scène des rencontres provoque un tourbillon d'émotions, révélant que la réalité ne peut pas être contrôlée comme un scénario de film. Bulletproof, A Lesbian's Guide to Surviving the Plot. La cinéaste Regan Latimer jette un regard perspicace, immersif et profondément personnel dans Bulletproof, A Lesbian's Guide to Surviving the Plot, sur la représentation queer à la télévision et le pouvoir des médias pour façonner la manière dont nous nous percevons. Au rythme rapide, tout en entremêlant des références à la culture pop, Regan voyage à travers l'Amérique du Nord et au-delà dans sa quête pour comprendre les forces qui influencent les histoires que nous voyons sur nos écrans. Flashback. Le club Flashback était un peu le Studio 54 ou le Limelight des prairies canadiennes. Ce club, dont le propriétaire John Reed avait promis qu'il serait un endroit sûr pour les homosexuels et leurs amis, a été le lieu où se sont éclatés les frères Peter Hayes, le réalisateur du film, et Matthew Hayes, le journaliste et professeur de cinéma et montréalais d'adoption, dans les années 1980-90. Leur film Flashback raconte l'histoire d'une culture disco au-delà de la danse, de la sueur, du sexe, de la drogue et de la mode. Situé dans une ville conservatrice, souvent hostile aux homosexuels, Flashback a fait sensation sur le circuit international des clubs malgré les descentes de police, les menaces de violence et le fléau du sida. Flashback n'est qu'un souvenir maintenant, mais son esprit renaît par ce film original dans sa forme et nostalgique dans l'esprit. C'était un avant-goût de la sélection 2024 d'Imagination. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 29 septembre 2024 dans le magazine Fugue.